France Musique.
Une belle journée à vous, Karine Le Bay. On vous retrouve dimanche prochain.
France Musique.
Bonjour à toutes et à tous. Nous serons parisiens cet après-midi et même tout au cœur de la capitale. L'église Saint-Eustache, dans le premier arrondissement, abrite l'un des plus beaux orgues de France. Deux jeunes brillants musiciens en sont depuis quelques semaines les nouveaux titulaires. Ils vont être nos guides privilégiés dans les entrailles de cet instrument spectaculaire et dans ce nouveau numéro de l'ère des lieux. Bienvenue.
Oh, what an elegant room!
Well, it's not Buckingham Palace, but it's Wilson's little castle.
En 1854, lorsque ce nouvel instrument a été construit, un règlement devait quand même indiquer quelles étaient les règles pour d'utilisation de l'instrument. Numéro 1, défense d'y apporter des allumettes chimiques. 2, défense d'y fumer. 3, défense d'y introduire chaufferette ou brésier. L'organiste avisera à s'y tenir chaudement par l'usage de bottes fourrées, d'un manchon, de bouillottes d'eau chaude, etc. 4e, défense d'y amener des enfants.
Alors les jeux de fond, si vous voulez, ça fonctionne un peu sur le système de la flûte à bec.
Je vais maintenant vous montrer différentes formes de tuyaux, vous les décrire. Là, vous avez par exemple un jeu qu'on dit à cheminée. Et maintenant, je vais vous montrer un peu la deuxième famille, qui sont les tuyaux d'anche. Vous voyez par exemple ces petits tuyaux là qui sont légèrement coudés, c'est ce qu'on appelle le jeu de cordes bassées, qui est une spécificité vraiment de l'orgue de Saint-Eustache. Et là vous avez des jeux extrêmement spécifiques, par exemple vous avez celui-ci qui est un jeu aussi ancien, qui s'appelle la voix humaine. Et donc ici, ces espèces de mitraillettes qui jettent sur la nef, en fait sont les jeux qu'on appelle trompettes en chamade, les jeux en chamade. Défense de s'y tenir d'une manière contraire au bon ordre, à la décence, au respect que doit inspirer le lieu saint. 8. Défense de monter au premier ou deuxième étage d'instrument, si ce n'est
l'air des lieux,
à l'église Saint-Eustache à Paris,
avec Thomas Hospital et Baptiste Florian Marlouvrard,
sur France Musique jusqu'à 17h.
C'est une curieuse rencontre que ce bout d'église encadré sous cette avenue de fonte, une rosace de Saint-Eustache au beau milieu des halles centrales. Il y a là tout un manifeste, c'est l'art moderne, le réalisme, le naturalisme qui a grandi en face de l'art ancien. Voici quelques lignes extraites du Ventre de Paris. Émile Zola y avait fait des fameux pavillons Baltar le décor et mieux encore le personnage principal de son roman. Et du temps a passé depuis, le quartier des Halles est aujourd'hui un chantier gigantesque et bientôt c'est une immense canopée comme une vaste toiture faite d'écailles, de verre et d'acier qui recouvrira ces Halles du 21e siècle. Tout à côté, l'église Saint-Eustache nous renvoie, elle, à des temps immémoriaux. Ceux d'une première chapelle, édifiée ici au début du XIIIe siècle, et d'une église, donc, consacrée le 26 avril 1637. Jean-Philippe Rameau y fut inhumé, Mozart vint y pleurer aux funérailles de sa mère, Berlioz y dirigeait son Tédéum, et son orgue compte pas loin de 8000 tuyaux, c'est l'une des tribunes les plus prestigieuses de France. Je vous propose que nous y grimpions ensemble, deux jeunes gens nous y attendent, dans ce somptueux buffet conçu justement par un certain Victor Baltar.
Vous voilà au niveau donc du cockpit de l'instrument.
Avant d'arriver à l'instrument, il y a le chemin qui mène à l'instrument. Hein. Vous êtes jeune, mais... On fait les présentations, Thomas Hospital, Baptiste Florian Marlouvrard, vous êtes tous les deux les titulaires, je reprends mon souffle, Thomas Hospital et Baptiste Florian Marlouvra. Vous êtes tous les deux les titulaires de l'orgue de l'église Saint-Eustache. Je reprends mes petites tablettes. Depuis le 24 mars 2015, nommé à l'issue d'un concours et pour y succéder, ce qui n'est pas une petite chose, à quelqu'un qui en était le titulaire, lui, depuis plus d'un demi-siècle, c'est Jean Guillou. Comment devient-on titulaire de l'orgue de Saint-Eustache, Thomas?
Comme vous l'avez dit juste avant, c'était sur concours, hein, donc c'était un concours relativement long puisque les différentes épreuves se sont étalées sur plus de 3 mois. Et à l'issue de quoi, ça nous tombe dessus, entre guillemets, et on devient titulaire de l'une des plus prestigieuses tribunes de France. Et on a un travail absolument monumental qui nous tombe dessus, mais qui est absolument passionnant, qui est celui, bien sûr, de se servir de l'instrument et de le faire jouer pour les offices. Mais c'est aussi assurer les auditions dominicales, faire visiter cet instrument, le faire rayonner. Donc c'est un travail absolument passionnant, mais colossal.
Et d'être deux, c'est-à-dire d'être deux titulaires.
Oui, alors tout à fait, on n'est pas trop de deux, parce qu'effectivement, ouais, comme vient de l'expliquer mon collègue Thomas, la charge de travail est importante. Alors moi, je dirais même que finalement, le concours se poursuit après le concours, puisque c'est là qu'on prend véritablement la mesure des différentes facettes du métier. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit simplement de jouer les offices. En réalité, nous avons 2 offices par dimanche, ce qui peut paraître peu comme temps de travail. Derrière, il y a toute la préparation effectivement des auditions, tout le travail qui ne se voit pas, qui se fait en amont, autour de la sauvegarde et du rayonnement de cet instrument. Donc nous ne sommes pas trop deux, effectivement, pour nous partager les tâches.
Alors, j'ai cité un nom, il faut qu'on l'évoque un peu plus longtemps que ça, que par son simple nom. Quand même, c'est Jean Guillou qui a été donc le titulaire de cet orgue depuis 1963, si je ne me trompe, et jusqu'à donc 2014, il est titulaire émérite aujourd'hui de l'orgue de l'église Saint-Eustache. Comment, à grands traits, vous décririez et vous parleriez à la fois du musicien, mais surtout de la personnalité, de la façon dont il a fait vivre, de la façon dont il a développé et fait connaître cet orgue dans le monde entier?
Oui.
Thomas.
Alors, personnellement, jamais je me permettrai de définir Jean Guillou uniquement par rapport à l'orgue de Saint-Eustache, parce que ce qu'il a apporté au monde de l'orgue va bien au-delà de l'orgue de Saint-Eustache, parce que vraiment c'est quelqu'un qui a su toujours parler de l'orgue au futur, ce qui est extrêmement rare en fait, surtout dans l'époque à laquelle on vit.
Ça veut dire quoi, parler de l'orgue au futur?
C'était pas du tout un historien entre guillemets de l'orgue ou une envie toujours d'un retour à des orgues anciens, mais plutôt toujours dans un acte de créativité par rapport à l'instrument, à sa conception, à sa facture. Alors que par exemple les années 70 ou 80 ont connu plutôt un retour aux instruments historiques, à la restauration des instruments comme ils étaient à l'époque. Mais je parle pour les orgues, mais je parle pour l'art en général. Cette restauration de bâtiments, ça a toujours été comme ça, une sorte de préservation du patrimoine. Ce n'est pas du tout une critique ni un point de vue, c'est ce qui se fait. Et lui a toujours été plutôt un visionnaire. Et c'est ça, sans doute, qui le définit, je pense, le plus. Après, Jean Guillou, je pense que pour Baptiste Florian, c'est la même chose. C'est un personnage que l'on connaît depuis qu'on fait de l'orgue. Il est tellement connu, c'est là où vraiment on ressent toute l'émotion venant de lui succéder. Parce que finalement, dès que j'ai commencé l'orgue à l'âge de 11 ans, je connaissais déjà le nom de Jean Guillou.
Baptiste Florian?
Oui, moi je parlerais carrément de la star Jean Guillou, cette espèce de personnage international. Effectivement, je pense que notre enfance a été bercée. Il y avait 2 organistes extrêmement connus, il y avait Pierre Cochereau et Jean Guillou, qui étaient un petit peu les 2 grands organistes français mondialement connus. Alors Pierre Cochereau, nous étions trop jeunes pour le connaître. Jean Guillou, nous avons pu l'entendre, alors bon, à travers les enregistrements, mais aussi en vrai. Moi, je me souviens encore, effectivement, jeune étudiant, venir à Saint-Eustache écouter Jean Guillou. Il y a cette espèce d'image un petit peu fantastique, je dirais, autour de ce personnage. Donc effectivement, succéder à Jean Guillou, ce n'est pas rien.
Et faire résonner, par exemple, à la tribune de cet orgue de Saint-Eustache, mais aussi des répertoires et des musiques totalement insensées, c'est-à-dire qu'on trouverait presque hors cadre, par exemple, par rapport aussi à l'endroit dans lequel nous sommes, mais enfin le disque en témoigne, mais des répertoires que lui-même a adaptés pour cet instrument qui sont assez insensés. Là, je voudrais la parole des musiciens, mais qu'est-ce que vous pensez de ça, Thomas Hospital?
C'est vrai que de ce côté-là, c'est vrai qu'il a ouvert beaucoup de portes, il a fait énormément de transcriptions, c'est vrai qu'il a amené beaucoup de répertoires purement classiques, de musique classique, qui n'a absolument rien à voir avec la musique sacrée, ici à Saint-Eustache, mais ailleurs aussi. Et je pense que là, pour le coup, il a vraiment eu la chance d'être organiste à Saint-Eustache. Parce que Saint-Eustache, il y a quand même un rapport avec la musique ou les arts de manière générale qui est
extrêmement particulier qui laisse quand même une grande place pour les artistes. On le voit bien dans les propositions que l'on peut faire, le clergé les accueille toujours avec à bras ouverts. Ils sont à la recherche vraiment de l'art vivant, de l'art comme sous-inspirant, de l'art comme générateur. Et c'est vraiment pour ça, je veux dire, le lieu ici à Saint-Eustache est unique.
Oui, moi j'ajouterais même qu'effectivement, bien que nous ayons, Thomas et moi, des personnalités artistiques, musicales différentes de celles de Jean Guillou, tout naturellement, en fait, nous continuons ce travail d'ouverture du répertoire, puisque nous avons déjà joué beaucoup de transcriptions, notamment lors de notre premier concert, le 6 mai, moi j'avais joué L'apprenti sorcier de Paul Ducat, transcrit par Lionel Rogue. Je crois qu'il y a d'autres programmes de transcription à venir très prochainement. Thomas va jouer Pélias et Mélisande. Moi-même, je jouerai une transcription du Boléro de Ravel ou de la 7e symphonie de Beethoven. Et nous avons, pour les années à venir, de nombreux projets d'associations de l'orgue avec l'IRCAM, avec d'autres instruments, avec le Forum des Images, pour pouvoir développer des ciné-concerts. Et effectivement, c'est une des grandes chances à Saint-Eustache, c'est que c'est un lieu qui est extrêmement ouvert, où toutes les propositions les plus novatrices sont les bienvenues.
Vous avez l'instrument, le plus grand orgue de France, c'est ça? C'est ce qu'on dit? Le plus grand nombre de tuyaux, un des plus grands?
Il a été dépassé, il y a quelques semaines, par Notre-Dame de Paris.
Non, il était le plus grand orgue de France. Aux récents travaux qu'ils ont fait à Notre-Dame de Paris il y a moins d'un an, ils ont rajouté des jeux. On a été dépassés. C'est terrible.
Alors, en proportion dépassée, mais en singularité, en identité, ça c'est autre chose. Alors là, c'est vous qui allez faire nos guides, si je puis dire, Baptiste, Florian et Thomas, et nous dire déjà dans quel lieu nous nous rencontrons et nous commencer à évoquer peut-être l'histoire d'abord de cet instrument et celui qu'on a sous les yeux aujourd'hui, je veux dire, dans l'état dans lequel on le découvre. Il date de quand cet orgue de l'église Saint-Eustache ?
C'est un orgue relativement jeune, puisque l'orgue actuel que vous allez entendre, c'est un orgue qui a été reconstruit dans les années 89 par la manufacture Van den Heuvel des Pays-Bas. Donc c'est un instrument qui, bien sûr, tire parti de toute l'histoire de la facture d'orgue, mais ça n'en est pas moins un instrument relativement neuf, puisque 25 ans pour un orgue, c'est dérisoire, alors qu'il y a des instruments qui ont plus de 3 siècles.
Mais ça, c'est pour la partie instrumentale. Mais j'ai rajouté que le buffet que vous voyez, donc le buffet, c'est toute la carcasse, si vous voulez, c'est à la fois un aspect purement décoratif, mais aussi une caisse de résonance et une sorte de projecteur du son de l'instrument, et de 1854, si je ne me trompe pas, et du fameux Baltard, l'architecte Baltard, qui avait dessiné ce buffet qui, je pense qu'on peut le dire de manière totalement objective, est absolument somptueux. Quand on voit de la qualité des sculptures que vous pouvez voir dans le coin, des sculptures que personne finalement ne va profiter à part l'organiste de passage à la tribune. Je peux même vous dire la qualité des sculptures, on pourra y aller ensuite, des petits angelots, c'est de l'orfèvrerie quasiment. Et pourquoi ce buffet de 1854 ? Tout simplement parce que l'orgue avait brûlé, une mésaventure, un facteur qui devait faire des travaux sur l'orgue, a fait tomber son chandelier en fait, à l'intérieur de l'orgue, et tout s'est embrasé, toute l'église en fait s'est embrasée, il y a eu un incendie absolument énorme, et donc il a fallu construire un nouveau buffet, un nouvel orgue, faire des travaux énormes, et c'est pour ça que Baltard donc a fait autant de travaux à Saint-Eustache. Et je dois dire, c'est absolument magnifique d'avoir eu ce coup de génie pour ce buffet. On peut lire, parce que finalement, faire un buffet d'orgue, c'est faire une œuvre d'art esthétique, mais c'est aussi s'adapter aux proportions et à l'aspect technique. Qu'est-ce que c'est un orgue ? Parce qu'avant tout, ça doit remplir un orgue. On ne s'amuserait pas aujourd'hui à imaginer une nouvelle forme de violon à chaque fois. Eh bien, pour l'orgue, ça doit répondre à certaines contraintes de spatialisation, de place, d'équilibre aussi. Eh bien, c'est vraiment du coup un coup de génie parce qu'il a réussi à la fois à lier une qualité architecturale, une qualité sur le plan visuel et aussi de conception. Parce que vous le verrez, le buffet de Saint-Eustache, c'est très certainement l'un des plus grands de France. La place qu'il y a à l'intérieur est absolument colossal.
La visite, si j'ose dire. Je vous laisse œuvrer, messieurs. Baptiste, Florian, par exemple, si vous voulez commencer.
Oui, alors je vais vous présenter donc déjà un petit peu le poste de pilotage, pour reprendre l'expression de Thomas. Donc l'orgue de Saint-Eustache est piloté par deux consoles. L'une qui se trouve classiquement, traditionnellement, à la tribune de l'orgue, dans le buffet, au sein même, au cœur vraiment de la machine orgue. Et une deuxième console, qui est la réplique identique, qui se trouve en bas dans la nef, que l'on utilise pour les concerts. Alors, ceci a l'avantage de permettre d'entendre l'orgue, puisque vous le verrez tout à l'heure quand on écoutera depuis la tribune, les équilibres sont complètement faussés. C'est comme un petit peu si on se trouvait au milieu de l'orchestre. le chef d'orchestre qui, lui, cherche des équilibres et est placé à la meilleure position face aux musiciens pour arriver à équilibrer les différents pupitres. Donc les musiciens se créent leurs repères, justement, entre eux, sans avoir une vision sonore globale de l'orchestre. Mais c'est un petit peu pareil pour l'organiste. Quand nous sommes à la console du haut, bien évidemment, nous avons une image sonore fausse, mais comme nous sommes en bas, cela nous permet d'équilibrer nos registrations, de se rendre compte de la manière dont l'orgue sonne. Alors comme je le disais, la console du bas et la réplique, elle est commandée électriquement et elle va commander la console du haut qui elle est mécanique.
Donc, ça c'est assez rare d'avoir une console comme ça et aussi dans des proportions d'un instrument comme celui-ci, d'avoir une console en bas et puis d'être ici où nous sommes.
Alors effectivement l'orgue de Saint-Eustache était le premier à être équipé de ce dispositif. Depuis, je dirais que cela fait école puisqu'il y a d'autres orgues qui sont inspirés de ce modèle avec une console déportée. Même certains orgues, par exemple là, je pense à Roquevert dans les Bouches-du-Rhône où il n'y a absolument pas de console en tribune. Il y a un buffet à la tribune et la console, l'unique console se trouve en bas. Mais effectivement, c'est un dispositif plutôt rare qu'on retrouve, ceci dit, maintenant quasiment systématiquement dans les salles de concert. C'est ce qui va être le cas, par exemple, lors de la Philharmonie de Paris, qui va être terminée très prochainement, ou encore lors de la radio. Alors au niveau donc de cette console, maintenant venons un peu plus en détail, il y a donc 5 claviers, ce qui est généralement un maximum, même si on trouve parfois des instruments de 6 ou 7 claviers aux États-Unis. Considérons que 5 claviers est un maximum, plus un clavier de pédale pour les pieds d'un pédalier. Il y a ensuite tout un tas de boutons tout autour des claviers, donc qui sont organisés par rapport à chaque plan sonore de l'orgue, qui sont respectivement le positif au premier clavier, puis le grand orgue, second clavier, le récit au troisième clavier, le grand chœur au quatrième clavier et le clavier de solo au cinquième clavier. Donc nous avons tous ces registres disposés de part et d'autre des claviers, ce qui totalise en tout 101 jeux. Alors nous avons ensuite tout un tas d'accessoires divers. Nous avons au-dessus du pédalier deux pédales à bascule. Alors l'une qui va être ce que l'on appelle la boîte expressive, qui enfermera, on l'entendra tout à l'heure, tous les tuyaux du clavier de récit dans une boîte hermétique, ce qui va créer des nuances, qui va permettre vraiment d'éteindre le son littéralement. Et à droite, la seconde pédale à bascule, qui est la pédale de crescendo, qui elle va ajouter des registres au fur et à mesure que je bascule. La démonstration en direct. Alors, la boîte expressive du récit, voilà, qui est en position donc ouverte, l'orgue sonne naturellement. Voilà, et maintenant je vais petit à petit fermer cette boîte et vous allez entendre le son qui va diminuer. Et dans l'autre sens, le son augmente. Voilà, ça c'est le principe de la boîte expressive. Maintenant, la pédale de crescendo, je pars sur la première position. Voilà, j'ai des jeux qui se mettent en place et au fur et à mesure que je vais faire basculer la pédale, les registres de l'orgue vont s'ajouter jusqu'à atteindre le tutti. Bien évidemment, dans l'autre sens, il va se produire un décrescendo, c'est-à-dire que les jeux vont s'enlever au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de registre.
Bien sûr, juste pour j'ai vu votre visage lorsque la pédale de crescendo s'est ouverte, on ne peut pas du tout se rendre compte de ce que donne l'orgue. Parce que le buffet est tellement monumental, vous voyez avec toutes ces sculptures, tout le son nous passe au-dessus. Donc on ne peut pas du tout se rendre compte de l'équilibre sonore qui est produit en fait en bas. Donc si vraiment vous voulez entendre l'instrument, il faudra qu'on descende en bas et on l'utilisera avec la console mobile.
Mais alors, pardon, mais alors oui, depuis la console mobile, certes, mais quand on est ici à cette tribune, à cette console, comment, le mot n'est pas très joli, mais comment on gère justement cet équilibre et ce rapport de l'instrument et de ses possibilités dont on a juste un aperçu ici avec vous, mais pour l'église?
Absolument, mais d'où tout l'intérêt d'avoir une deuxième console, ce que Baptiste Florian et moi-même faisons, c'est qu'avant toutes les messes, pour préparer les pièces qui seront pourtant jouées de la console d'en haut pour l'office, les concerts sont faits de la console de nef et les offices ici, on prépare toutes les sonorités d'en bas pour se donner tout de suite, se rendre compte de ce que ça va donner. Et ensuite, par un système de... les deux ordinateurs sont reliés, les registrations sont enregistrées dans la console du grand orgue aussi, de tribune. Et du coup, ça permet de pouvoir utiliser l'instrument. Mais c'est vrai que c'est tout à fait perturbant, parce que ce que l'on entend est complètement transformé ici à la console.
Vous le connaissiez bien, cet instrument, tous les deux, je veux dire, comme musicien et comme praticien d'une certaine façon, c'est-à-dire avant d'en devenir les co-titulaires, mais évidemment, j'imagine, pour y avoir entendu Jean Guillou, mais des multiples et des infinies possibilités qu'il pouvait offrir. Est-ce que c'est un instrument, au fond, que vous avez découvert depuis que vous avez été nommés tous les deux titulaires de cet orgue de l'église Saint-Eustache, Thomas Hospital?
C'est un instrument qui est tellement grand qu'il faut vraiment beaucoup de temps pour se l'approprier totalement. C'est vraiment, donc, on connaissait cet instrument. Pour ma part, j'y avais donné un récital il y a pas longtemps, en juin dernier. Mais même si j'y avais passé 4-5 nuits, c'était absolument insuffisant pour vraiment en soustraire toute la palette sonore. Et je pense qu'aujourd'hui, alors que ça fait maintenant 2 mois presque qu'on est titulaire, on n'a pas encore totalement pris possession de l'instrument. Et je pense qu'il faudra des années pour pouvoir peut-être oser dire « Ah, je crois que je connais mon instrument absolument par cœur ».
Et de le faire sonner, de le pratiquer chacun, déjà, de ce que vous entendez l'un de l'autre, mais d'une façon très différente. Baptiste Fourier.
Effectivement, déjà de le pratiquer nous permet de le connaître de plus en plus. C'est vrai que chaque répétition, chaque nuit de répétition, parce que les répétitions se font la nuit, quand l'église est fermée, pour notre tranquillité à nous aussi, et puis pour celle des visiteurs de l'église. Chaque répétition nous permet de découvrir un peu plus cet instrument. À chaque fois, c'est toujours une part de recherche, mais aussi une part parfois de hasard qui nous permet de dire « Ah oui, tiens, effectivement, cette combinaison est possible, cette sonorité est possible. » Et effectivement, de s'écouter mutuellement, puisque par exemple, lors d'une répétition, notre répétition générale en réalité, pour notre concert d'accueil le 6 mai dernier, Thomas Hospital jouait la Fantaisie ad nos de Franz Liszt, et en me promenant dans l'église, je suis allé écouter l'orgue, et qui sonnait complètement différemment. Alors que quelques secondes auparavant, j'étais à la console en train de tourner les pages, et je lui ai dit, c'est absolument incroyable, va écouter, je vais jouer ce passage, tu vas voir, c'est un autre instrument. Et du coup, on s'est amusé comme ça à se faire entendre nos propres mélanges, et c'était une autre manière encore d'entendre l'instrument.
Toi ?
Je rejoins tout à fait. C'est vrai qu'on a eu cette expérience qui est passionnante parce que, bon, on a été déjà surpris, et ça c'est assez rare aussi, c'est un instrument qui remplit l'église constamment. Je veux dire, je pense que les proportions entre la taille du buffet et la taille de l'église, je pense, sont très intelligentes de conception. Et on peut se retrouver à l'autre bout de l'église, on entend l'orgue très très bien, toujours. C'est un orgue, et alors, notre concert, il y avait plus de 900 personnes, et l'orgue sonnait toujours aussi fort. Les gens n'avaient pas du tout, parfois quand il y a beaucoup de monde, le son est un peu plus étouffé, ce n'était pas du tout le cas. L'orgue avait continué à remplir l'église, et ça c'était vraiment passionnant.
Thank you. France Musique.
Vous l'avez dit à grands traits tout à l'heure, Baptiste Florian, mais la vie d'un organiste et d'un titulaire d'un orgue d'une église comme celle-ci à Saint-Eustache consiste en quoi exactement? Quel rythme de concert? La participation aux offices, bien sûr. C'est quoi exactement votre quotidien de musicien et d'organiste ici?
Alors, notre quotidien, Thomas et moi-même, c'est donc deux offices le dimanche, un le dimanche matin, un le dimanche soir, précédé d'une audition d'une demi-heure. Donc, audition, faut entendre par là, prestation de concert. Donc, tous les dimanches, plus les fêtes, la Pentecôte, l'Ascension, etc., qui représentent donc des dates supplémentaires. Voilà pourquoi nous sommes heureux d'être deux pour nous relayer, puisque nous avons également des activités à l'extérieur de Saint-Eustache, notamment des activités de concertistes, souvent à l'étranger. Donc, il serait à peu près impossible d'être là présent tous les dimanches, plus toutes les fêtes. S'ajoute à cela effectivement les concerts exceptionnels. Alors nous avons eu notre premier concert en commun le 6 mai dernier, qui était notre concert d'accueil, mais nous allons développer bien évidemment une saison de concerts ici à Saint-Eustache. Il y a une vie artistique qui va continuer. Il y a également tout le travail aussi sur la liturgie, puisque qui dit nouveaux arrivants dit nouvelle équipe qui se met en place et nouvelle façon de fonctionner. Donc tout cela prend du temps. Quand on assiste aux offices, ça a l'air de couler tout à fait naturellement, mais c'est parce que derrière, effectivement, il y a une concertation, une préparation avec les prêtres, avec l'organiste de chœur, puisque nous jouons à deux orgues. Il y a donc deux organistes qui jouent à la messe, l'autre organiste étant dans le chœur. Donc cela nécessite effectivement de se coordonner, de se préparer. Et nous avons, alors, dernier accessoire que je vous présente, qui est quand même intéressant. Alors, un accessoire pas peu moderne, puisqu'il s'agit tout simplement d'un interphone qui permet effectivement de pouvoir se donner des consignes discrètement pendant l'office, mais ce petit boîtier qui est bien pratique et qui permet d'allumer, voilà, avec un petit ce petit signal sonore, et vous voyez qu'il y a des feux verts, orange ou rouge qui s'allument, et cela est bien pratique puisque l'organiste de chœur, tel un chef de gare, nous envoie des signaux verts, orange et rouge pour nous demander de commencer ou d'arrêter de jouer, ce qui est bien pratique pour mesurer le temps des improvisations, par exemple.
Si vous voulez, maintenant, on vous propose de visiter le reste de l'instrument à l'intérieur et commencer par tout ce qui est mécanique. Ensuite, on va gravir les étages jusqu'à arriver au toit.
D'accord, vas-y.
Et
oui.
Toutes les tirasses, oui. Et je te dirai quand le mettre, d'accord?
D'accord,
vas-y. Allez voir.
Donc on reste ici?
Non, non, faut venir.
Non, vous allez avec. Vous.
D'accord.
On les entraîne avec le Nautilus.
C'est ça. Donc voilà, on pénètre dans les entrailles de l'instrument, et là on en est qu'à ce qu'on appelle le sous-bassement. C'est-à-dire voilà, la partie qui est au niveau de la console. Et là, je vais ouvrir une espèce de boîte de Pandore. Et cette boîte, en fait, ici, cette espèce d'énorme boîte, est en fait la salle des machines. Parce que cet instrument a ce qu'on appelle un système de machines Barker. Alors, vous voyez, c'est enfermé dans une boîte à triple épaisseur. Pourquoi? Vous allez vous en rendre compte tout de suite. Tu peux y aller, Baptiste? Merci.
Alors, il faut expliquer, hein, Thomas, là on est ensemble et Baptiste Florian, lui, il est resté à la console.
Exactement.
Qu'est-ce qui se passait exactement?
Alors, ce qui se passait, c'est que là, il a simplement actionné les notes et les jeux de notes et au pédalier sans tirer de registre. Et c'est uniquement le bruit de la mécanique. Cette espèce de machine à coudre infernale, en fait, c'est le bruit de la mécanique de l'orgue de Saint-Eustache. Alors ça, c'était évidemment une révolution, il faut le dire, pour la facture d'orgue au XIXe siècle. Puisque en France est apparue la machine Barker lors de la création de l'orgue de la cathédrale de Saint-Denis. C'était le premier grand Aristide Cavaillé-Coll, qui était l'un des plus grands facteurs d'orgue du XIXe siècle. Il avait construit un orgue très très grand, c'est un instrument très très important. Et en fait, il se rendait compte que ça était beaucoup trop lourd, c'était injouable. C'était très intéressant, mais absolument injouable. Et donc, il a vu passer le brevet de ce monsieur Barker, cette espèce d'ingénieur anglais, qui avait inventé ce système, en fait, pneumatique, de relais pneumatique, plus exactement, qui pouvait faire en sorte, justement, d'avoir une sorte d'assistance
pour l'organiste. Et donc ça a été une révolution parce que ça a permis au 19e de développer énormément d'instruments et de faire en sorte vraiment qu'on puisse avoir des instruments gigantesques. Aujourd'hui, on vous dirait que la fée électricité tout de même remplacer ce système-là. Si vous voulez, c'est l'équivalent de la locomotive à vapeur. Aujourd'hui, la fée électricité a remplacé ce système-là, mais à Saint-Eustache, en 1989, ils ont tout de même voulu reconstituer ce système.
Qu'est-ce qu'on fait? On attend Baptiste Florian.
Alors on va aller chercher, puis on va monter au premier étage.
D'accord.
Eh bien, ça va bien, on va emprunter l'escalier. Nous voici ici au premier étage de l'orgue de Saint-Eustache. Donc vous êtes face ici à une première forêt de tuyaux, on va dire un petit bosquet, qui représente en fait la totalité de la tuyauterie du grand orgue, qui est le plan sonore qui se situe au deuxième clavier. Voilà. Vous avez derrière vous, ici, cette espèce de beaubourg, là, on se croirait vraiment sur Saint-Georges Pompidou. En fait, c'est la série de tubas qui se situe sur le quatrième clavier. Et derrière, vous avez ce qu'on appelle la petite pédale. Ce sont tous les jeux de détails qui sont sur le pédalier. Voilà. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu, en gros, comment fonctionnent ces tuyaux-là. Alors, vous voyez, il y a toutes formes possibles, tous matériaux utilisés. Et en fait, tout ceci va définir aussi le son. Mais on peut vraiment les définir en deux grandes familles. Les jeux de fond, d'une part, et les jeux d'anche. Alors, les jeux de fond, si vous voulez, ça fonctionne un peu sur le système de la flûte à bec. Je vais vous en chercher un. Vous voyez, même si c'est difficile de voir à travers une radio, mais vous pouvez quand même constater que ça a vraiment la forme d'une flûte à bec. Il manque simplement les trous. C'est pour ça qu'il y a donc un tuyau qui ne donne qu'une seule note, et donc il y a un tuyau par note. Et si je souffle dedans, ça a vraiment la sonorité d'une flûte. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un jeu de fond. Plus le tuyau va être large, plus il va avoir un son extrêmement nourri, plus il va être étroit, et plus il va avoir également un son qui sera assez étroit, assez maigre, qu'on dit plus ou moins gambé. Et plus le tuyau bien sûr est grand, plus le tuyau sera grave, et plus le tuyau sera petit, plus le son sera aigu. Je vais maintenant vous montrer différentes formes de tuyaux, vous les décrire. Là, vous avez par exemple un jeu qu'on dit à cheminée. C'est le même système de la flûte, mais qui est recouvert par une sorte de cheminée qui va lui donner un son plus doux. Qui pourrait se rapprocher de un peu les jeux qu'on peut entendre dans un orgue de Barbarie, par exemple cette sonorité de bourdon. Et maintenant, je vais vous montrer un peu la deuxième famille, qui sont les tuyaux d'anche. Alors, je vous le sors ici. Les tuyaux d'anche, en fait, ont la spécificité de pouvoir se diviser en deux parties. Donc, vous voyez ici, c'est vraiment une languette. Et lorsque le vent va partir dans cette première partie du tuyau qu'on appelle le pied, va mettre en vibration cette languette. Et la vibration produite va résonner, tout simplement ce qu'on appelle le résonateur, et produire cette sonorité si particulière. Il faut savoir que les jeux d'anche sont généralement les jeux les plus puissants de l'orgue. C'est pour ça que là, je me permets de me tourner vers la nef. Alors, je sais que ça vous fait sourire. Je sais bien que d'ici, ça ressemble à un klaxon. Je suis tout à fait d'accord. Mais je peux vous assurer que c'est là toute la difficulté, justement, quand on construit un orgue. Et là où est le travail difficile de l'harmoniste, ça veut dire que le facteur d'orgue est obligé d'harmoniser, c'est-à-dire de travailler le matériau sonore en fonction malheureusement de ce qu'il entend ici, mais en ayant à l'image ce qu'il va entendre dans la nef. Parce que je vous le sonne d'ici, je suis d'accord, c'est le klaxon du Parc des Princes, mais pourtant, dans la nef, ça va être un son beaucoup plus rond, beaucoup plus enveloppé, et qui sera à la bonne proportion, si vous voulez, par rapport à l'édifice. Alors, si vous voulez, on peut monter au deuxième étage de l'instrument.
Oui. Alors on y va, donc on va prendre l'escalier qui se trouve derrière, on continue la visite.
Donc sur la gauche?
Oui.
Juste avant de monter.
Ah.
Oh, vous pouvez rester là. Je vais vous faire entendre l'un des tuyaux les plus graves de l'instrument, enfin pas vraiment les plus graves. C'est un tuyau de 16 pieds, c'est le do, le premier do de 16 pieds. Et vous allez voir un petit peu la sensation qu'on a d'ici. Une espèce de conduit d'air conditionné en fait, que l'on ressent, qui décoiffe en fait. Et bien c'est tout à fait c'est tout surprenant et c'est un peu l'assise de tout l'orgue.
Voilà, nous situons maintenant au deuxième étage de l'instrument. Donc au fur et à mesure que nous montons dans les étages de l'orgue, nous montons dans les claviers. Donc derrière nous, le clavier de récit, troisième clavier, avec ses jalousies, donc ces panneaux de bois pivotants qui se commandent donc avec la boîte expressive. Donc il y a effectivement ce grand caisson dans lequel sont enfermés tous les tuyaux du clavier de récit, et l'ouverture ou la fermeture de ces jalousies à l'avant permettent les nuances. À l'avant de ce deuxième étage, donc le clavier de grand cœur, quatrième clavier de l'instrument, qui, de par sa position en avant et plus haute, va résonner beaucoup plus dans l'église. Et un étage encore au-dessus, dernier étage de l'instrument, se trouve le clavier de solo, qui, par sa proximité avec la nef, permet vraiment au son de parcourir toute l'église.
J'ajouterais simplement qu'il y a certains jeux assez spécifiques dans ce clavier-là qui sont assez intéressants. Vous voyez par exemple ces petits tuyaux-là qui sont légèrement coudés. C'est ce qu'on appelle le jeu de cordes bassées, qui est une spécificité vraiment de l'orgue de Saint-Eustache, et qui est un jeu ancien, lui, pour le coup, qui n'est pas un jeu de 1989, c'est un jeu du facteur d'orgue Willis, qui est un facteur d'orgue anglais, et ce jeu-là avait été offert à l'organiste de l'époque, qui était Joseph Bonnet. Alors d'ici, encore une fois, je ne suis pas sûr du résultat que ça peut donner, donc, comme je vous le disais, mais croyez-moi que dans la nef, ce jeu-là ressemble à une clarinette qui est vraiment très 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 belle. Ici vous vous trouvez à l'intérieur du récit expressif. Donc c'est pourquoi expressif, comme vous a expliqué Baptiste Florian, c'est ces volets qui s'ouvrent et qui se ferment pour faire des nuances. Et là vous avez des jeux extrêmement spécifiques. Par exemple vous avez celui-ci qui est un jeu aussi ancien qui s'appelle La Voix Humaine. Alors vous allez l'entendre d'ici première fois et ensuite vous allez l'entendre d'en bas. Je ne fais pas de commentaires. Voilà, vous l'aurez entendu d'ici, et maintenant, vous l'entendrez d'en bas, et comme ça, vous allez vraiment entendre cette différence, et cette, justement la difficulté que c'est d'harmoniser un instrument, c'est de travailler vraiment le tuyau d'ici, en entendant ce son qui peut paraître ingrat, et pourtant d'imaginer ce que, ensuite déployé dans l'acoustique, il va donner.
Montons donc vers ce troisième étage. Alors une parenthèse aussi avant que nous empruntions l'escalier qui nous emmène au dernier étage de l'orgue. À cette hauteur, nous sommes déjà à peu près à 15 mètres du sol peut-être. Ce que j'entends par le sol, c'est-à-dire le plancher de la tribune hein, sur lequel nous sommes arrivés. Nous sommes donc à peu près à 15 mètres de hauteur dans l'instrument. Et nous arrivons donc au sommet des premiers grands tuyaux de l'orgue, donc notamment le 16 pieds que vous avez entendu tout à l'heure. Donc pourquoi des pieds? Parce qu'en fait, le premier rut de chaque jeu donne la taille en pieds, c'est-à-dire que 16 pieds, le premier do va mesurer 16 pieds de haut, donc 16 pieds, ce qui mesure un pied faisant 32 cm, donc environ 5 mètres de haut. Voilà. Et lorsque nous allons monter, nous allons voir cette fois-ci les plus grands tuyaux de l'orgue, qui eux mesurent donc le double, 32 pieds, c'est-à-dire à peu près 10 mètres, ce sont là vraiment les sons les plus graves, parce qu'on descend des fréquences en deçà de 20 Hz, c'est-à-dire aux limites de la perception de l'oreille humaine.
Alors là, c'est plus une échelle de meunier, l'escalier se raccourcit un peu. Attention à la tête en arrivant au dernier étage.
Faites attention à la tête ici.
certainement l'une des plus belles vues de Paris, ou du moins de l'église Saint-Eustache avant tout. Alors là, vous êtes vraiment, vous êtes vraiment au sommet de l'instrument, vous êtes vraiment tout là-haut. Vous voyez ces petits angelots ou ces statues qu'on voyait comme des petites figurines de Playmobil vues d'en bas. En fait, ce sont, vous voyez, des statues, ils sont grandeur nature. Ils sont vraiment peut-être 1m80. La statue, c'est absolument splendide. C'est là où on voit le travail vraiment de l'œil vraiment de Baltard sur les proportions, en fait, qui est vraiment magnifique. Comme je vous le disais, sans rentrer dans les détails, même l'arrière des statues a été extrêmement bien fignolé. Et je ne sais pas qui peut en profiter, mais c'est pour vous montrer la qualité de la sculpture. Et donc ici, ces espèces de mitraillettes qui jettent sur la nef, en fait, sont les jeux qu'on appelle trompettes en chamade, les jeux en chamade. C'est-à-dire, au lieu qu'ils soient placés à la verticale, en fait, ils vont avoir une position horizontale, ce qui va leur donner une projection. Ça va projeter le son dans la nef. Et ce sont des jeux souvent extrêmement puissants. Ici, ce sont des jeux vraiment extrêmement puissants. Alors, vous avez vu, ces matériaux, c'est des jeux en cuivre, qui leur donnent du coup un son encore plus clinquant, si je peux me permettre l'expression. Et c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, là, peut-être pour le micro, mais nous, on va se boucher les oreilles. Voilà, vous avez pu un petit peu entendre un petit peu les tuyaux d'ici. Et encore, on avait tiré un seul registre. Parce que si on tire la totalité des jeux d'ange, on va aux urgences directement. Et donc, là, vous avez encore dernier clavier, les jeux du dernier clavier, qui sont les jeux harmoniques. Et là, par contre, c'est un souhait de Jean Guillou. C'est un clavier, c'est un jeu de cornet. Le jeu de cornet, c'est un jeu très spécifique de l'orgue, qui est la composition de 5 rangs, quand on appuie une seule note. On entend la fondamentale, son octave, la quinte de son octave, la super octave et la tierce, en fait. Et ça a un son extrêmement spécifique qu'on pourra entendre. Et là, par contre, la spécificité de ce jeu-là, ce sont que c'est des tuyaux qu'on dit harmoniques. Alors ça aussi, c'est une invention relativement tardive, 19e siècle. Et ce sont des jeux qui sont allongés, qui font en fait deux fois leur longueur normale. Et ça leur donne un son qui est beaucoup plus riche, en fait, et qui se déploie davantage. Et donc là, ça a été vraiment une envie de Jean Guillou, c'est d'avoir tout un jeu donc de cornet, mais en tuyau harmonique. Et ça, c'est relativement rare. Et on a la chance ici d'en avoir un. Et en plus, du fait de leur position géographique, c'est-à-dire vraiment au sommet de l'instrument et sous les voûtes, ils se déploient complètement, ils se jettent dans la nef, et ça a un son très, très particulier.
On va redescendre, c'est ça?
Voilà, si okay. Vous voulez, maintenant, on peut entendre un petit peu l'instrument. Ouais. Mais je vous conseille donc de redescendre complètement au premier, vraiment dans la nef, et on se servira de la console de nef.
Très bien. Nous sommes descendus dans la nef de l'église Saint-Eustache et nous sommes donc à la console de cet orgue qui est installée dans la nef. Voilà. Thomas,
Nous sommes donc à la console de nef, à la deuxième console, celle qui est utilisée pour les auditions et pour les concerts, et celle qui permet surtout de se rendre vraiment compte du rendu sonore dans l'église.
Je voudrais juste ajouter que la particularité aussi de cette console, c'est qu'elle est mobile. Là, vous la voyez donc sur le côté en dessous du buffet de l'orgue, mais on pourrait tout à fait la placer dans le cœur de l'église ou dans le transept. On peut la déplacer vraiment où on veut.
Ça se fait ?
Alors, il n'y a pas tellement d'intérêt acoustique à jouer l'orgue, puisque plus on s'éloigne, plus on a un retard. Déjà d'ici, puisque nous commandons, donc finalement on envoie un ordre, un signal radio, qui est ensuite interprété par l'ordinateur qui se trouve dans le buffet de l'orgue, qui lui va donner l'instruction à la fameuse machine Barker dont nous avions parlé tout à l'heure. Donc tout cela prend un petit peu de temps, ce qui fait qu'il y a un petit décalage, et bien sûr, plus on s'éloigne, plus le décalage est grand. S'ajoute à ça le temps que le tuyau met à réagir, puisque on a vu ces tuyaux de 16 pieds tout à l'heure, ou les plus grands encore de 32 pieds, le temps que la colonne d'air se mette en vibration, ça prend aussi un petit peu de temps, et enfin la propagation du son elle-même dans l'édifice fait que tout ça, entre le moment où on appuie sur la touche et l'émission pleine du son, s'écoule presque une demi-seconde, ce qui est énorme.
Là, je vais vous faire entendre la voix humaine que vous avez entendue de l'intérieur de l'instrument. Bien le fameux corde bassée, qui est donc ce jeu offert par le facteur d'orgue Willis. Voilà pour le jeu de corde bassée. Qu'est-ce que tu veux faire entendre ? Vas-y. Hein.
Alors, on vous a parlé tout à l'heure du cornet et du principe des harmoniques. Alors justement, l'orgue de Saint-Eustache comporte à peu près toutes les harmoniques naturelles. Alors, je coupe mes claviers. Donc on va partir des sons les plus graves, qui vont être donc le 32 pieds. Vous percevez à peine une vibration. Je passe ensuite au 16 pieds, une octave fluo. Aux 8 pieds, la quinte, l'octave aux 4 pieds, la grande tierce, à nouveau la quinte, la septième, à nouveau l'octave, et la neuvième. Ensuite, on va continuer encore voilà, la même série d'harmoniques, une octave au-dessus. Et combiné tout ensemble, on a ce qu'on appelle un grand cornet. Qui va effectivement s'intensifier en brillant, plus on va monter dans l'aigu. Donc dans le grave, on entend effectivement la décomposition des harmoniques, comme différentes notes, et plus je m'approche de l'aigu, on obtient un timbre uni, alors qu'en réalité, là j'ai déjà tiré une quinzaine de jeux à la console. Alors voilà, je vous montre les effets de crescendo que je vous montrais de la console du haut. Je les refais exactement la console du bas. Donc avec le fameux récit expressif, donc boîte fermée. Alors, vous avez ce son un petit peu, on entend des cuivres, des trombones à l'orchestre, très lointain. Et je vais donc ouvrir la boîte et ensuite actionner le crescendo. Et là vous allez entendre l'orgue sortir vraiment des profondeurs et mugir.
Saint-Eustache, voilà une église d'une architecture bâtarde, écrit Émile Zola. Le Moyen-Âge y agonise et la Renaissance y balbutie. Il faut lire Le Ventre de Paris pour imaginer quelle fut la vie fourmillante de ce quartier des Halles dans la seconde moitié du 19e siècle. Aller boire un verre, peut-être aussi, à la terrasse du Compas, rue Montorgueil. C'est l'ancienne auberge du Compas d'Or, évoquée également par le romancier. Et puis il faut aller, bien sûr, à Saint-Eustache, écouter les deux nouveaux titulaires de la tribune de son grand orgue, Thomas Hospital et Baptiste Florian Marlouvrard. Ils jouent chaque dimanche en alternance à 17h30, c'est ce qu'on appelle les auditions d'orgue. Puis je voudrais vous signaler également une conférence qui se tiendra, elle, le 28 juin à 14h. Une histoire du grand orgue de Saint-Eustache et de ses organistes, racontée par François Sabatier. Conférence organisée dans le cadre d'un festival qui célèbre les 500 ans de la naissance de Philippe Néry, le fondateur de l'Oratoire. C'est la fin de l'ère des lieux. Un grand merci à Béatrice Trichet qui a enregistré et réalisé cette émission, à Marie-Christine Ferdinand qui l'a préparée et à Dalia qui était avec nous aujourd'hui. Les infos, la réécoute et le podcast, c'est sur francemusique.fr. À bientôt.